My name is Laura Sashoya. I am chairing this third panel, which is entitled Entre salafisme, sectarisme et violence, le nouveau visage de la mobilité. I am the director of the Centre d'études de Medina Tunis, CEMAT, which is a Tunisian American research institute that was established in 1984. I'm also a political scientist by training, and I'm very excited about this panel this afternoon. We're seated in the order that the presentations will follow. Each presentation will be 10 minutes long to maximize time on discussion. And I will briefly introduce the speakers one by one. So our first speaker this afternoon is Mohamed Fraser Rahim. He is the executive director for North America for Quilliam International, which is a counter-extremist organization. He's an expert on violent extremism issues, both domestically and overseas. He is also currently, he just deposited his PhD dissertation at Howard University in Washington, D.C., which will add to a very impressive and meaningful career. So I'll give the floor to you.
Great, thanks. I want to thank the organizers of the event for my interest.
Is that it? Okay. First, I want to thank the organizers of this event for addressing, I think, one of the most critical issues of our time, and certainly my esteemed panelists, who hopefully will be able to just share some insights. I'll try to stick to the time limit of 10 minutes or less, too, as well. Just for a full record, I don't think we're going to change the house, but you know, this problem set that we're dealing with, particularly as it relates to Salafism, personally, I'm coming at this from a couple different vantage points. For a decade, I worked for the U.S. government in the U.S. intelligence community for the Director of National Intelligence and the National Counterterrorism Center. And so I've run around throughout West Africa and the Middle East quite a bit. And my experience working on counterterrorism largely was as an analyst, looking at extremist ideology, counter-radicalization. And so my vantage point has been largely from a policy-related topic, looking at how can my presidential daily briefs be insightful for, in this case, U.S. policymakers and then foreign counterparts. And then I left that world and went to U.S. Institute of Peace, where I worked on peace-building efforts. And so I certainly saw the role and the capability of how religious communities, some who happen to be Salafi Muslim communities, Sufi, Shia, etc., can also play an important role to combating extremism. And then lastly, I have left that world of government, pseudo-government, and now working in sort of the practitioner space, where I have firsthand seen the effects of Salafi theology, the role that it's playing, its adaptation, its innovation, and what it means in the contemporary context that we live. So I want to just give you a story and then I'll offer a few thoughts for us to consider. Right now in the city I live in Washington, D.C., I have roughly around 20 youth that I'm working with who have been radicalized. The background ranges from individuals' mental health issues that are a huge concern, individuals who are white, they are black, they are Latino, they are second, third generation North African immigrants to the U.S. And last week I was with a group of our weekly session, and one of the youth came to me and he was holding up an ISIS flag. If he could go to Iraq, he would have gone by now. But the referral process in which we have set up essentially is we are the last chance before, otherwise he'd be locked up in jail and be suffering the consequences of that aftermath. And in this, I'll give you a very contemporary context of how Salafism is changing. He holds up the flag and he brings to my attention something for those who are Arabic speakers will be able to resonate very clearly. He says, "Awal shab wa akhir shab." It begins in shab. Shem, it will begin in Syria, it will end in Syria. And Wa'idin, he also says, that he quotes this verse of the Quran, and Surah Al-Fatir, that there are three types of people. He says, there are those who are dhalimi li nafsihi, those people who oppress their own souls. Then he says, there are those who are muhtasid, they take a middle path. And then he says, there are people who are sabaq bil qadat, those who do excessive praises or devotional acts. Now, the question is, how would a young person who is a convert to Islam know about these matters that, quite frankly, some practicing Muslims do not know about? Am I right? Unless he has been radicalized online. So this is interesting, because the Quranic school system that I went to in America certainly did a good job, but they weren't giving as much technical matters that I just mentioned to you. So I think that just that example just demonstrates that there's a struggle, is it? There is this desire to know sort of traditional religious discourse and what is becoming and emerging as mainstream Islam, which is becoming in many circles throughout the diaspora, those who are Muslim majority nations. But Salafi theology is becoming the norm of mainstream Islam. This is quite to the contrary, and I should have caveated, I'm a historian by training, so sorry, my examples are referencing from that context. The parochial village Islam, whether it is Sufism, the Tasawwuf of the past, is not necessarily the mainstream Islam of the contemporary context. And so what does it mean when communities themselves, young people, are learning from a Salafi theology combined with Islamist ideology, creating Salafi jihadism, if you will, my colleagues will talk more about that. What does this mean? Because the impact of what takes place in Libya, what takes place in Syria, what takes place in all throughout these hotbed or these locations throughout the Middle East and broader Islamic world, certainly have impacts for those who are living in the West. So it may sound very cliche that this globalization effects is economic, but it's certainly impacting how communities are also wanting to carry out attacks in the West and also go to new frontiers as well. Just some things to consider. Also, what we are seeing is certainly the adaptation of groups themselves. The large-scale, spectacular attack to low-technology, high-impact terrorism is taking place as well. We're seeing the convergence of new battlefields. And also, which is quite interesting enough, and we parse out particularly the work with William as well, is it's important to find out the language use too as well. The very fact that we're sitting here and discussing this terminology, Islam, Islamism. Islam is a religious value system practiced by 1.5 billion Muslims. Certainly the case that we all know about. Islamism is a political ideology that imposes a draconian interpretation of Islam that's narrow, that's rigid, that's static, that's mostly legalistic. But what happens when there's intersection between Islamism and New Age Salafism as well, as I would consider and call it as well? What happens, and these are just ideas that put out, I'll wrap up in the next few minutes. What happens when quietist Salafis, which I characterize and give terminology, the original trend of a social movement of religious scholars, students, activists, and their followers seeking to promote ultra-conservative interpretations of Islam through largely peaceful proselytization. As you can imagine, conservatism or ultra-conservatism does not equate to violent extremism, but just in terms of breaking down the quietness of the various levels of Salafism. Electoral Salafism, certainly we're seeing the rise of this taking place, a nascent trend largely emerging in the aftermath of the Arab Spring, involving Salafist parties that seek to participate in electoral processes as a means to operationalize their orthodox religious views via governance. And then lastly, one that we're all familiar with, in which colleague will talk a bit more about, jihadists emerge out of rejection of quietist Salafism and calls for the use of jihad as the only method and the sense of armed insurrection to impose the austere versions of Islam, being an Islamic policy. So the I will stop right there because I think everything else we may open up for conversation. But I think the most important idea I would leave you with is this. And if I had to draw pictures and images, I think that we are emerging in a phase where those who are on the left, wherever you are throughout the globe, see that there's not an issue going on at all, wherever you are throughout the world. Those on the right, in the rise of a populist movement, whether it's in France, whether it's in the United States, whether it may be in the Arab Islamic world, certainly we're seeing this nationalist movement take place. And then you have theocrats who are certainly converging in the conversation and creating what I consider sort of a perfect storm. Somewhere in between those who are on the left, those who are on the right, those who may have divine inspiration is addressing what we're confronted with. And I think that in this particular contemporary context, the rise of Salafism and its importance, it's still relevant, but also how it is morphing into an ISIS or Al-Qaeda form of Islamic theology or interpretation is something to take a look at.
Thank you very much, especially for the 9 minutes presentation. The second presentation on this panel is by Jomini Thomas, who is a research fellow at the École des Hautes-Études en Sciences Sociales in Paris. He's associated with a program of the Institute for Islamic Studies and Societies in the Islamic World. His research interests are vast. He has spent years researching jihadist groups based in the Arabian Peninsula, as well as the jihadi scene in London. And his current research focuses on radical political Islam, especially its evolution since the 2011 revolts. He's the author of several books on these issues, including the latest book, Jihadist Generations, Al-Qaeda and Islamic State, History of a Fratricidal Struggle, which was published in 2016. Thank you.
Donc, merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais faire ma présentation en français. Donc, effectivement, l'objectif de la présentation, c'est de présenter les grandes lignes du draft paper que je vais consacrer, sur lequel je vais consacrer une grande partie concernant le rapport sur l'IPEF, qui sera donc le papier, ma contribution de ce panel, qui fait partie de l'IPEF également. Puisque nous avons un panel consacré spécifiquement au salafisme qui est managé par Mohamed Ali Hadraoui, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui en tout cas fait partie donc de ce panel avec Marc Seichmann, avec Fabio et avec d'autres chercheurs également. Alors, l'intitulé de cette présentation, c'était éventuellement de faire une étude comparative sur Ansar al-Sharia. Le concept d'Ansar al-Sharia n'en parle pas automatiquement, tout de suite, dans l'esprit, l'organisation, le concept en tant que tel, et d'essayer de définir cette expérience néo-djihadiste post-2011, de la définir comme à la fois un mouvement socio-religieux et également un groupe combattant. Donc c'est faire attention, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas groupe combattant qu'on n'est pas non plus instrumentalisateur de la violence, ou en tout cas, on utilise de la violence verbale, et on peut être aussi dans une optique violente. Donc là, je ne me positionne pas sur violent ou non-violent. Je me positionne sur à la fois un mouvement sociologique qui n'utilise pas la violence armée et un mouvement qui peut être un mouvement combattant qui s'inscrit dans une violence armée militarisée. Pour rappeler la salafia djihadia dont se réclame l'ensemble des mouvements qui font référence à Ansar al-Sharia, c'est un mouvement de rupture. Donc on est dans une logique révolutionnaire par rapport au reste du salafisme. C'est toujours bon de le rappeler. Ces mouvements de rupture, il y en a quatre. Il y a d'abord l'obéissance, la transgression de l'obéissance à l'autorité politique. Les djihadistes n'obéissent pas à l'autorité politique, ils la transgressent, il faut la renverser. La réforme des conditions juridiques en vue de déclarer le djihad, un État déclarer le djihad, une institution où est-ce qu'un émir ou un chef leadership peut déclarer le djihad, c'est essentiellement la position du djihadiste. La nature des relations avec le monde non-musulman, celle-ci est naturellement sans ambiguïté, on est dans un choc de civilisation, le monde des impies contre le monde des croyants. Et puis enfin, la dernière rupture qui est importante, c'est le cadre juridique du takfir, c'est-à-dire le droit d'exclure une communauté musulmane, un groupe, ou pour les, toutes les personnes accusées d'apostasie. Là, il y a forcément des débats à la fois entre les salafistes et les salafis djihadistes, et il y a aussi des débats à l'intérieur de la salafia djihadia sur ce concept. Donc on voit que c'est un concept clivant, question du takfir est clivante au sein de la mouvance djihadiste. Alors, comment les révoltes arabes, justement, ont modifié la pensée salafia djihadia, la pensée salafie djihadiste, et ont généré la genèse, en fait, de ce label qu'on a appelé Ansar al-Shahid. Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que d'abord, le terme d'Ansar, là aussi, c'est important les mots, parce que on a, cette matinée, on a, il y a eu une intervention sur la langue, et le mot Ansar n'était pas nouveau. On a vu des autres groupes islamistes djihadistes apparaître avant cette période, Ansar al-Islam, Ansar al-Din Mali. Donc, le terme d'Ansar, hein, référence naturellement à la période du prophète, les premiers partisans de Médine, j'y reviens pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une réflexion dans les années, fin des années 2000, au sein de l'Al-Qaïda, puisqu'Ansar al-Sharia est une émanation de l'Al-Qaïda. Ça aussi, il faut bien comprendre, une émanation des principaux leaders, penseurs de l'Al-Qaïda. Il y a eu une réflexion, et c'est tout à fait attesté dans les textes de Abu Tabad qu'on a retrouvés auprès de Osama bin Laden, sur une volonté de changer de label, de changer de nom, et de ne plus s'appeler Al-Qaïda, et de trouver d'autres éventuellement labels. Et parmi ces labels, le mot Ansar al-Sharia a été prononcé par un certain nombre de leaders. La deuxième chose également, c'est que le terme d'Ansar al-Sharia, c'est quelque chose qu'on a connu, non pas dans le monde arabe, mais en Occident. Je rappelle que dans les années 90 et à la fin des années 2000, un groupe à Londres, dirigé par ma chère qui était à Finsbury Park, chère Abou Hamza al-Masri, avait créé un groupe qui s'appelait Supporters of Sharia, qui est exactement la traduction anglaise de Ansar al-Sharia, et qui avait, paradoxalement, c'est pas un hasard, exactement les mêmes attributions, les mêmes stratégies, contrôle de mosquées, dispensaires, associations caritatives, essayer d'aider les musulmans les plus démunis qui se trouvaient en Grande-Bretagne, et faire de la prédication, de la darwa. Il n'était pas question de monter un mouvement armé sur le territoire britannique. Donc on est dans une même logique de mouvement socio-religieux. La première apparition de Ansar al-Sharia dans le monde arabe, elle date d'avril 2011, donc elle s'inscrit dans les post-printemps arabes, et elle est la première, elle est au Yémen, avec un mouvement qui est une vitrine locale d'Al-Qaïda en péninsule arabe, qui s'appelle Ansar al-Sharia, lorsque le mouvement commence à mettre en place une conquête territoriale et une logique territoriale auto-étatique. Alors après, ce qu'il faut souligner également dans les traits communs, c'est d'abord le caractère urbain du phénomène. Le mouvement de Ansar al-Sharia, qu'il soit né en Tunisie ou en Libye ou au Yémen ou ailleurs, a toujours été extrêmement urbain, dans des grands centres urbains ou dans des grandes villes urbaines. Et c'est foncièrement son terreau de recrutement était essentiellement dans les milieux urbains. Quant au projet politique en commun, on va le voir parce qu'il y a des typologies après, le projet politique, restaurer l'ordre moral, défendre les valeurs islamiques et appliquer la charia. C'est éventuellement ces trois axes principaux. Quant au djihad armé, c'est-à-dire l'action armée, elle est laissée de côté et elle est utilisée pour mobiliser sur des théâtres extérieurs. Et c'est essentiellement vers ces théâtres extérieurs, pour la défense des populations musulmanes opprimées, que l'on a les cas typiques de Ansar al-Sharia, par exemple en Tunisie ou en Égypte, qui mobilisaient pour aller combattre ou essayer de combattre en Syrie. Et encore, il y avait des débats à l'intérieur de ces mouvances pour dire est-ce qu'il faut envoyer des gens aller combattre ou est-ce qu'il faut garder nos militants pour pouvoir faire de l'action et pour pouvoir faire un certain nombre d'actions dans les associations. Alors, naturellement, cette mouvance qui s'est mise en place à travers différents territoires, elle avait comme principal objectif de concurrencer l'offre de l'islam politique qui existait déjà. On pense aux frères musulmans déjà en premier lieu, et aux salafistes qui se sont engagés dans la politique après les affaires de 2011, notamment pour le cas d'Égyptiens, par exemple, le Hezb al-Nour. Donc là, c'est véritablement une offre qui est faite pour concurrencer à la fois des mouvements qui sont déjà en voie d'institutionnalisation, mais qui sont dans le champ politique, alors que les mouvements de la salafia djihadia dans le Ansar al-Sharia ont toujours refusé justement d'appartenir au champ politique et se déterminent comme extérieurs au champ politique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de parti, on ne fait pas partie d'une institution, on refuse le jeu démocratique, le jeu des élections. On se positionne à l'extérieur du champ, comme un peu la salafia traditionnelle refuse de s'inscrire dans le champ politique. Hein, le wahhabisme traditionnel refuse le système du parti. Le point aussi qui est important de souligner, c'est l'expérience des prisons. L'expérience des prisons dans cette mouvance, est-ce qu'elle a déradicalisé ou est-ce qu'elle a au contraire radicalisé encore davantage? Et là, on s'aperçoit que dans les prisons, il y a eu des chocs entre différents courants à l'intérieur des prisons. Le cas égyptien, par exemple, était très un cas d'école entre différents courants, Dr Fadel et les autres, et ce qu'on a appelé les murajaat, c'est-à-dire les rétractations, Ansar al-Sharia ne s'inscrit pas dans cette mouvance-là. Elle s'inscrit dans une mouvance qui continue à être radicale, et refuse donc la repentance. Elle n'est pas du tout dans la repentance. Et les principales donc actions hors du champ politique de cette mouvance, c'est la mobilisation pour le djihad global sur des lieux de conflit, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Palestine et autres, et sur le terrain local, l'activité de prééducation et les stratégies d'action locale que j'ai mentionnées précédemment. Alors je vais terminer sur les typologies maintenant de ces mouvements d'Ansar al-Sharia qui sont apparus dans le monde musulman. Je vais être très très bref parce que justement elles seront développées par mes collègues. Moi j'ai dégagé trois typologies. La première typologie, c'est les mouvements de prédication qui ont été des mouvements non combattants. Cas tunisien, cas égyptien. Il y a eu un cas marocain qui a été éteint dans l'œuf après février 2011, qui a eu le mérite d'exister. Ce sont des cas donc d'organisations qui n'étaient pas combattantes et qui ont pris fin face à l'action des régimes en place, face à la répression, face à l'action des régimes en place, qu'ils soient autoritaires ou non. Pour le cas de l'Égypte, il est clair que l'arrivée de Sisi au pouvoir a mis fin à l'épisode Ansar al-Sharia comme mouvement de prédication. Deuxième typologie, les expériences proto-étatiques qui ont été mises en place par Ansar al-Sharia lorsqu'ils ont conquis ou pris le contrôle de territoire. Et là, on a deux exemples, on a surtout le Yémen, qui a été un laboratoire d'expérience proto-étatique, à deux reprises, en 2011-2012, dans la Bienne et dans le Chaboua, et en 2015-2016, dans la Dramaout, et une nouvelle fois dans la Bienne, où on a vu des mouvements d'Ansar al-Sharia gérer et administrer des territoires, comme l'a fait l'État islamique sur la Syrie et l'Irak. Donc là, on est dans une autre optique, avec le contrôle, avec une bureaucratie, avec un autre type d'élément. Et puis on a eu une expérience très minoritaire au sein du mouvement du Nord Mali, puisqu'il y a eu une petite katiba qui s'est appelée Ansar al-Sharia au sein de la mouvance maïque. Et puis donc, je termine dans la typologie par la troisième catégorie, celle qui est plus dans la catégorie des révolutionnaires, ceux qui ont été amenés à être des mouvements violents, mais du fait parce qu'ils sont rentrés dans un conflit, dans une zone de conflit. Et là, naturellement, le cas d'école, c'est Ansar al-Sharia Libye, qui s'est engagé au départ à faire de la prédication, de la dawa, de l'islamisme, de l'action sociale, et qui s'est retrouvé disarmé du fait du paysage et de la fragmentation milicienne du paysage libyen. Pourquoi il n'y a pas existé finalement d'Ansar al-Sharia en Syrie? Il y a eu des tentatives de fédération, de coalition qui se sont appelées d'ailleurs à l'aide d'Ansar al-Sharia, mais effectivement, la structuration des mouvements d'opposition islamiste djihadiste en Syrie était déjà structurée avant que le concept n'arrive, puisqu'on avait déjà la mouvance Jabhat al-Nusra et autres. Donc ce qui nous fait dire qu'en conclusion, cette mouvance, ces différents groupes dans Ansar al-Sharia, en fonction du terrain, se sont structurés d'une telle façon, soit combattants, soit non-combattants, et se sont devenus finalement, même s'ils ont refusé l'action dans le champ politique, se sont devenus des acteurs politiques. Et tous les territoires sur lesquels ces mouvements-là ont existé, puisque beaucoup n'existent plus actuellement, la seule mouvance qui existe encore, c'est celle qui est dans le Yémen, puisque la mouvance de la Libye a s'est dissoute très récemment. Ce sont des mouvances avec lesquelles il est possible d'engager un processus de dialogue et un processus de négociation, puisqu'ils ont été au cœur de l'action politique, même en utilisant la violence armée. Il y a eu des tentatives de négociation, donc ça veut dire qu'un mouvement salafiste djihadiste qui s'inspire de l'émanation philosophique d'Al-Qaïda peut rentrer dans un processus de négociation ou entre un processus de déconflictualisation. Ce qui, pour ma part, est totalement différent de l'approche de l'État islamique, qui, par son projet califal ou linariste et extrêmement exclusiviste, ferme la porte définitivement à un processus d'éventuellement de déconflictualisation. Merci.
the next speaker is Fabio Meronen, who is a researcher, who's a researcher in the Middle East and North Africa Research Group at the University of Gand. He has worked on Salafism and jihadism. I think he's probably the person who's worked the longest on it in Tunisia for well over a decade, and has written quite a lot about it. His most recent publication is Between Social Contention and Takfirism, the Evolution of the Salafi Jihad Movement in Tunisia, published in 2016. Thank you, Fabio.
Thank you, Larissa. Well, my approach is a bit different from the one Rafa just was presenting. Yeah, okay, I have a short time, but I want to analyze the Sun Shia movement in Tunisia, and in a different approach from the one that was used mostly this morning, which was mostly sociologic and psychological. So this morning I thought the shortcoming, I think, of the approach was that those jihadists look like passive subjects. See, like they were kind of having pain or having some social problems that led them to be Salafist. And to the contrary, I mean, my approach, which is based on social movement approach, actually is it's insisting, it's stressing more on the political subjectivity. So that, I mean, it means that these people have political projects. So they express a subjectivity when they become jihadists, and then when they get organized, they have also political projects. So for me, Ansar Sharia in Tunisia was a political social movement, of course, within an Islamic radical frame. I studied Ansar Sharia between 2011 and 2013. And I studied it in the context of the political evolution of the post-revolutionary politics. So there was a process of democratic building on one side, there was a street politic, you know, on the streets in the neighborhoods. And of course, when I say that it's a political social movement, so I had two elements that I do analyze. On one side, social movement, and on one side, a political movement. So for the first side, of course, I agree here with the sociological approach in the sense that after revolution, there is a kind of social group, social class that emerged from the revolution. Because, I mean, it is difficult to define sociologically. I mean, I tend to use the term of social class. Of course, we can discuss it. I mean, this is not the place. But what I want to say is that the Benalist period was a period in which there was a myth of the growing middle class. I mean, it was throughout the region, actually. And by defining middle class was those people that were having access to a certain kind urban standard of life. So on the other side, there was another segment of the population that was completely out of this middle class process. So it is not the poor population. I mean, this is a misunderstanding. But this is people that were not integrated, would not have access into this middle class. I mean, I should be more specific, I cannot be here now. So, I mean, the uprising, the 2011 uprising, was not such a non-violent uprising. I mean, it was kind of violent as well. And there was those kids from the neighborhoods, from the middle and big cities that were going to the streets. And those people would become mobilized after 2011, and they would become more or less Salafists. And this is actually what happened. I mean, I forgot to say that I interviewed many Salafists. I mean, I talked to some of the Ansar Sharia leaders. And so there was, in parallel of the process of institutionalization of democracy, there was a process, political process going on after 2011, parties, I mean, institution, a constitutional assembly, a process of, that we define as a process of democratization. But on the other side, there were people that were not included somehow. I mean, I'm not saying that someone was excluding them, but on the fact, on the social space, they were not within this process. And they felt more and more as the revolution was not giving the answers that they were waiting for such a process, which was basically material expectations. So, at the same time, there is a process of Islamization or Salafization, you know, of this neighborhood. I mean, there was a general process in society. And I cannot go into the details. Sorry for just being simplistic in my expressions, but all of a sudden, Ansari Sharia comes out as a social first movement and then a political project that is able to make of this street politics, of this radicality which is on the street, they were able to translate it into a political project. And it was very successful. So what is the political project? So in which sense can you talk about a political movement? When I first talked to the Ansari Sharia leaders, I was struck by one point. And it was the main reason actually why I was interested in it, which is a little bit the point that was making Thomas. Those people were saying, we are here trying to make a new jihadi movement. Something like a reformist jihadi movement. What is weird? You know, what is a new jihadi movement? What is a reformist jihadi movement? And in fact, I mean, it's very interesting, Thomas studied, because he studied internationally what I did study on the ground here in Tunisia. There was, in fact, a leadership that was kind of trying a new Salafi jihadi project, which was new because it was the consequence of an historical experience, of a theoretical elaboration Thomas was talking about, but it was also the consequence of a new political context, which was the incredible period of freedom of expression in Tunisia between 2011 and 2015, which does not exist anymore. I mean, we do all agree on that. I mean, there was an incredible period. There was an amazing period. I mean, I lived it. So there was also a lot of naivete, of course, because you were on the on TV set saying that you are jihadi, you know, claiming for Bin Laden, etc. I was talking to jihadi. It was just normal. So there was this idea that if they do not make us the war, if they can make dawah, why should we make qital? Yeah. Why should we make this jihad, which is another jihad? Of course, we can argue. There are counter-arguments. I know. I don't have the time if you wanted the discussion. But it was very much the idea. But the political context and the social movement approach, that approach that learns you that those movements have a political rationale. Again, I come to the Thomas point. They do react according to the context. So, in 2012, in 2013, in Tunisia, there was an extreme polarization, as everywhere else in the region. There was a process of polarization, a zero-sum conflict, me or you. You know, I mean, it's still very much the case, actually. You know? So Islamists believe that if the other bloc will go to government, they will go back to jail. You know? And the non-Islamists were convinced that if Islamists went on government, they will become under an Islamic dictatorship. I mean, it's very much existential. You or me. I mean, we got very close to this process, and of course such an experience of that of Ansari Sharia was going to be pushed within this polarization and was being pushed into a context which different trends did develop. So on one side we had this politics, which was the politics of Wayad, which was the politics of Zawari, who claimed it officially on videos, who was the politics of ACMI in Algeria. The message was, do not make the war to Nahda, let's go for a front. Let's go for an Islamic front. Just forget that those are not really Islamists. You know, let's go to a front, we're in a context of polarization, so we are the ones that will defend this process. I mean, this is very much doing politics. That's the argument that Thomas was doing. Of course, we're talking about the politics which is within a radical Islamist Salafist frame. Within this process, which is the process of the beginning of a Salafist Islamist movement, which is the process that in the technical language of these groups is the process of becoming a shaman. I cannot go into detail about that, but it's that process in which individual people become Salafis or become jihadists, but on a first level they do become so because they adhere to a frame, to a software. I mean, they do agree, this is the incredible aspect of this movement, they do agree into a general ideology, symbols, attitudes, literature, they make you jihadists. But at the same time, they do not adhere to an organization. I mean, they don't take that, like in a party. So it happens in this context of polarization, in a frame of development of the political situation, a dramatic transition, which Tunisia was going through, you had on one side radical Salafists that within the Salafist jihadi movement became against Ansar al-Sharia, and on the other side you had the we had the non-Islamists that would not accept anymore the existence of Ansar al-Sharia. 2013, Ansar al-Sharia is criminalized, it's outlawed. Now does not exist anymore, and we went into a stage of confrontation. I cannot go into the details, I mean the consequence of that to the today politics. In conclusion, I mean it was a special period, 2011, 2013, you know, in Tunisia, believe or not, it was attempt, a particular, a unique experiment of evolution of a jihadi movement into a social political movement. It did fail. We are back now to the authoritarian approach, and we are now in a new different stage also because of the evolving geopolitical situation. Thank you.
Our last speaker is Fatih Rekik, who is a sociologist from the Faculty of Letters and Human Sciences at the University of Sfax.
Merci. J'ai le droit à 10 minutes en ayant le droit de pêcher aussi.
D'accord.
D'accord. Alors, Fatih Rekik, professeur de sociologie à l'Université de Sfax. Je dirige également une structure de recherche à la Faculté des Lettres de Sfax. S'appelle ECLUSE, État, culture et mutation de société. Notre dernière publication, c'est un ouvrage collectif sur le suicide en Tunisie. Voilà. Et qui a un rapport avec la violence et ce qui se passe avec les jeunes. Donc, je vous fais l'économie des nuances concernant le terme salafisme pacifique, djihadiste, scientifique et tout ça. En Tunisie, c'est un jargon nouveau, chez nous, hein, on ne le connaissait pas. Puis ma mère est sunnite et en même temps elle fait des pratiques de chien. Bon, on ne fait pas la différence, c'était la règle en Tunisie, mais tout récemment on vient de découvrir toutes ces nuances grâce à la révolution, mais il semble que bien avant cela, ça circule aussi sur Internet. Bien, alors pour moi ce qui compte le plus, on est tous les salafistes, y compris le salafisme du parti Anar islamiste qui est au gouvernement, c'est le même projet. C'est un continuum, c'est la filière, tout simplement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est sur quoi j'ai travaillé dans les années, disons, 90, c'est le rapport communautarisme-islamisme. Ça, comme il a été dit ce matin, il y a la séparation politique et religieuse, c'était l'exception. Je dirais aussi chez nous, la séparation communauté, c'est-à-dire tribu, et religion, c'est l'exception. La règle, c'est l'interférence entre tous les deux, et ça a été démontré depuis longtemps par Ibn Khaldoun. Alors, qu'est-ce que je veux dire par interférence, communautarisme, islamisme? Avant les années 80, juste après l'indépendance, les communautés locales, c'est-à-dire les régions qui restaient dans l'économie agraire ou pastorale, étaient ouvertes à la modernisation et à l'État nouveau indépendant et tout ça. Mais et ça a bien fonctionné dans les années 60 et 70. Mais à partir de la fin des années 70, avec les retombées de la crise du Fordisme, bien entendu, il y a eu un changement extraordinaire dans tout le monde. Et l'État s'est désengagé de ses contrées de l'intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, où l'aggravation et où la situation s'est aggravée entre un littoral, disons, développé et un intérieur. Et un intérieur, disons, marginalisé ou exclu. Je dirais que ça a commencé à partir des années 80, parce que l'État s'est engagé.
avec quoi? Avec l'économie informelle. On était mobilisé pour la modernité, pour la modernisation. Ça a bien fonctionné avec l'école qui a créé une classe moyenne dans des gens de ces régions d'intérieur. À partir des années 80, saturation de la fonction publique, et les gens se sont retournés du côté des frontières pour assurer leur modernisation. C'est là où il y a eu donc, le trafic du côté de l'Algérie, mais surtout du côté de la Libye. C'est pour cette raison que lorsqu'on dit que, s'il vous plaît, cette carte, la carte. Lorsqu'on dit que la Tunisie est divisée en deux parties, littorale et intérieure, ça c'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, bon, du point de vue développement économique, la carte est là. Donc, la carte de la Tunisie, généralement, elle est divisée de façon longitudinale. L'électorat qui va de Tunisie jusqu'à Afrique-Abès, et le reste, on dit que c'est marginalisé. D'autre côté, c'est-à-dire marginalisé économiquement, industrie, tourisme, etc. Mais lorsqu'on regarde par la suite la carte de la répartition des richesses, je dirais que cette répartition n'est pas. Il faut attendre. Je reviens. Bon, c'est intéressant. Je continue. Vous l'avez. Non, on va passer à la page suivante. Juste pour descendre. Voilà. Justement, voilà. D'habitude, c'est ça ce qui, jusqu'à Gabès, qui est soi-disant intégré économiquement. Le reste, c'est à la marge. Mais lorsque. On voit du côté critère richesse. Alors il faut ajouter une bonne partie du sud du côté du littoral. Comment? C'est grâce à l'informel. Donc, ça va nous expliquer par la suite la répartition de la carte électorale. Là, c'est le candidat Ennahda. Là, c'est le candidat du parti soi-disant moderniste BGPS, l'actuel président. Et là, l'autre candidat. Alors, là, le français, c'est là. C'est là où il a sa majorité. De l'autre côté, c'est là. Politiquement, ça change. Donc, politiquement, c'est une troisième configuration qui montre que dans la répartition politique, il y a la donne communautaire. Alors, ce qui compte pour moi, c'est surtout ce qui est à droite. La carte de l'électorat du Barzoki. Le candidat, même si Ennahda n'a pas donné le mot d'ordre pour élire Barzoki. Alors, tout le Sud, communautarisme exige, il a voté pour Barzoki. D'abord parce que lui, il est originaire du Sud. Deuxièmement, parce que ça, c'est l'électorat d'Ennahda. Et une interférence entre l'islamisme et le communautarisme remonte, bien sûr, à des siècles, mais l'essentiel, c'est qu'il y a une similitude dans le système de valeurs entre la communauté tribale essentiellement et le système de valeurs islamique, même s'il y a des différences, bien sûr, sur certains points comme l'héritage et bien d'autres choses. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, c'est le. Pourquoi. Dans le sud, on a voté pour les islamistes. Est-ce que parce qu'on est tellement islamiste? Non. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus important. C'est l'économie informelle. Il y a entre les deux un objectif commun. C'est que pour les islamistes, l'État, ce n'est pas celui-là. C'est la filière. Et pour les autres, on n'aime pas l'État parce qu'il contrôle l'économie informelle. Et donc, c'est ce qui explique donc, cette communauté d'intérêts entre les deux. Ça n'a pas fonctionné dans une autre communauté qui a voté en 2011 pour Ennahda. Pourquoi? Parce que en 2011, les Sfaxiens, ils ont un problème d'identité aussi à Sfax. J'ai fait une étude ici à Sfax sur les intentions électorales des Sfaxiens. En 2011, on a voté pour Ennahda parce qu'il y a un problème d'identité. En 2014, on n'a pas voté, ou du moins, il y a une régression de l'électorat Ennahda. Pourquoi? Parce que Ennahda ne remplit plus les besoins identitaires des Sfaxiens. Ça veut dire quoi? Que les Sfaxiens ne sont plus musulmans? Non. Parce que l'identité Sfaxienne, ce n'est pas un peu plus d'islam. Mais surtout, reconnaître la Sfaxité. Qu'est-ce que ça veut dire la Sfaxité de la bourgeoisie, de la classe moyenne Sfaxienne? C'est reconnaître le poids économique des Sfaxiens, parce qu'ils sont des entrepreneurs et industriels et tout ça, dans le domaine politique. Donc politiquement, ils ne sont pas assez très bien représentés. Ils se considèrent aussi comme des marginaux, comme si du cousin. Si le cousin se considère marginal parce qu'elle n'a rien économiquement, les Sfaxiens se considèrent aussi des marginalisés, des exclus et tout ça. Donc, c'est l'islamisme qui instrumentalise la communauté. Dans d'autres cas, c'est tout à fait l'inverse, c'est la communauté qui instrumentalise l'islamisme. Bien sûr, ce qui s'est passé tout récemment dans le site de Tataoui, c'est un autre mouvement social. C'est des gens qui demandent un quota de la recette du pétrole. On a besoin de notre pétrole, on a besoin quand même d'un investissement de l'État. Il y a eu négociation. Et qui a fait la négociation? C'est la communauté, bien sûr. Mais qui l'a incité? C'est des gens islamistes, bien entendu, mais qui ont la casquette, communauté, il habite à Tataoui, à Kamour. Et il vient le monsieur de Tunis pour négocier. Le monsieur, il est bien sûr Nandaoui. Alors, il est à la fois à l'opposition et au gouvernement, et il fait donc cette alliance entre les deux. Mais dans ce cas, je dirais que c'est la communauté qui l'emporte sur le politique. Et bien sûr, avant cela, il y a eu Agassa. Mais l'intermédiaire, ce n'est pas les islamistes, c'est d'autres camps, c'est-à-dire le GDT, les partis de gauche, etc. Vous voyez donc cette interférence entre le politique et l'islamisme et le communautarisme, mais ça n'empêche pas que le communautarisme aussi s'interfère avec le politique. Donc, ça c'est la première idée que j'ai voulu développer. Je voulais dire tout simplement que, pour avancer un tout petit peu, parce qu'il y a plus de temps, alors, on est en train de voir, on a cité à des mouvements sociaux d'une nouvelle forme. Là où il y a la violence, vous allez me dire, mais donc avant c'était bien négocié. Oui, mais avant cela, il y avait un martyr, il y avait de la violence, il y avait des gens qui ont fermé les vannes, il y avait l'armée, il y avait tout ça, donc il y a eu de la violence. Et ça a commencé maintenant dans une autre région qui s'appelle Kabylie, dans le sud. C'est le même épisode qui se répète encore une fois. N'oubliez pas que bientôt il y aura les élections municipales. Bien. Alors, il y a d'autres aussi. Un autre phénomène, c'est le suicide. Le suicide aussi, c'est une autre forme de violence. L'année dernière, on a publié un ouvrage sur le suicide et il se trouve que ce qui est beaucoup plus important que le suicide, c'est surtout les tentatives de suicide. C'est encore une fois de plus forme de violence, mais c'est une violence négociée. On fait une tentative de suicide pour que le gouverneur nous écoute, nous fixe un rendez-vous. Sinon, on va menacer de se suicider ou de s'auto-immoler, etc. Donc, les mouvements de suicide, c'est aussi une autre forme de violence et le nombre de cesse d'augmenter entre 2012 et 2015, selon l'Observatoire économique et social à Tunis. Chaque année, il y a une augmentation à peu près de 100. C'est encore une autre forme de violence, etc. etc. Donc, pour terminer, un seul chapitre, c'est le dernier, quel rapport avec le salafisme? Alors là, je renvoie à quelques entretiens que j'ai réalisés avec certains jeunes salafistes, au nombre de 7. Il y a quelqu'un qui était salafiste, mais maintenant il est de gauche, mais le reste, ils sont restés salafistes. Alors, quand je dis salafiste, il y a des gens qui ont voté non, il y a des gens qui n'ont pas voté, il y a des gens qui ont voté Marzouki. Il y a des gens qui n'ont pas voté, mais qui ont conseillé à leurs amis de voter pour un candidat Nandaoui. Essentiellement, ils ne votent que pour les islamistes. Donc, sur le plan, là je reprends peut-être une définition de ce qu'est-ce que ça veut dire la religiosité de Glock, de Charles Glock, dans les années 50, une étude sur les États-Unis d'Amérique. Alors, il différencie dimension doctrinaire, c'est-à-dire la croyance, la dimension donc croyance, dogme si vous voulez. La deuxième dimension, c'est la dimension rituel, c'est-à-dire la pratique, la religion, puis la dimension, si vous voulez, pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie quotidienne avec les gens, et finalement la dimension subjective. Il y a plusieurs dimensions. Lorsque j'ai essayé d'appliquer ces quatre dimensions sur les salafistes que j'ai rencontrés, j'ai constaté que sur la première dimension dogmatique, il n'y a pas de problème, ils sont comme les autres. Sur la dimension rite, c'est la même chose, bien sûr, avec quelques nuances concernant la barbe, concernant les moustaches et la façon de s'habiller, etc. Mais sur le plan pragmatique, alors là, pragmatique, c'est ça le plus important, parce que je vais me focaliser sur un seul cas, ça suffit. Pragmatique et surtout subjectif. Alors, je commencerai par ce qui est pragmatique. Le monsieur, il est salafiste, il porte le tamis, mais il a une entreprise. Il a une entreprise qui est financée par le biais d'un parent. D'accord, je vais terminer avec ça. C'est quelqu'un qui a financé, mais ce n'est pas la banque. Ça, c'est très important. Ce n'est pas les institutions structurées. C'est l'informel. Mais l'informel n'est pas toujours mauvais. Donc, il a financé une entreprise, et grâce à cette entreprise, donc, il a mené la belle vie. Mais, entre-temps, il est obligé de faire des compromis avec des principes qui ne sont pas les siens. Par exemple, il est obligé de saluer les femmes à la main, parce qu'il y a des clients qui viennent, ils doivent faire cela. Parce qu'il va passer un concours de recrutement à la fonction publique, il est obligé de raser la barbe, etc. Donc il est dans le compromis quand il s'agit de comportement pragmatique. Sur le côté subjectif aussi, il a fait la connaissance de sa femme par Facebook. Donc ça c'est le côté le plus important qui a été mis ce matin, si on voit sa trajectoire subjective, comment il est devenu salafiste aussi. Il y a le terme de Berthaud, Daniel Berthaud, qui s'appelle l'événement, l'événement dans la vie. À un certain moment, il y a eu le divorce entre sa mère et son père. Donc il y a une blessure, si vous voulez, une certaine blessure. Et comme il a été dit ce matin, le jeune voulait purifier donc ce qu'a fait sa mère. Celui-là aussi, il a voulu pas purifier, mais plutôt prendre la revanche de sa mère et être correct et réussir dans la vie, etc. C'est une sorte d'étoile qui ressemble un tout petit peu à celle des protestants. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de continuer, mais je me reste là et je laisse donc la parole à la Sainte-Barbe. Merci.